Il était une fois.
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 Afin de continuer à célébrer le retour du printemps, je te propose un petit voyage en Grèce antique. Allons à la rencontre de celle qui a bien failli causer la fin des hommes. Notre histoire prend place il y a des milliers et des milliers d'années. La Terre se repose enfin après les terribles guerres menées par Zeus contre les titans et les géants. Le puissant dieu a enfermé les titans dans le Tartare, un lieu terrible, où les pires criminels expient leurs fautes pour l'éternité. Et quant aux géants, bon, il faut bien avouer que la plupart sont morts dans les combats, mais quelques-uns ont survécu. Et c'est le cas de Typhée. Pour l'empêcher de nuire à nouveau, on l'enterre profondément sous la Sicile. Là, le pauvre Typhée se démène, s'agite, tente de défaire ses liens, et tout cela provoque de terribles tremblements de terre. Hadès, le dieu des mondes souterrains, est inquiet. Il redoute que les éboulements laissent entrer le soleil dans le royaume des ombres. Alors, pour se rassurer, il monte à bord de son char divin tiré par 4 chevaux noirs et part inspecter les fondements de la Sicile et surveiller les liens qui retiennent le géant. Aphrodite, baignée dans les flots de la Méditerranée, remarque le dieu des enfers. Lascive, elle sourit. Une idée vient de germer dans son esprit. Aucune partie du monde n'est épargnée par les flèches de son fils, Cupidon. Et seul le monde souterrain n'a toujours pas succombé à l'amour. Cette erreur doit être réparée, se dit-elle. Et d'un autre côté, elle observe depuis un certain temps la jeune Perséphone, fille de Déméter, la vénérable déesse de la végétation. Celle-ci approche les 20 ans et est toujours vierge. Elle risque de le rester toujours, comme Artémis et Athéna. Et cela ne plaît pas du tout à la déesse de l'amour. C'est pourquoi elle ordonne à son fils de tirer immédiatement un trait contre Hadès. Concentré sur sa tâche, le dieu ne s'aperçoit de rien et continue de voler au-dessus de la Sicile. En bas, sur l'île, l'insouciante Perséphone s'amuse en compagnie des nymphes. Dans un magnifique champ de fleurs, les voilà qui courent, s'attrapent, roulent dans l'herbe et rient. Au milieu des roses, du safran, des violettes et des glaïeuls, la jeune femme remarque une fleur d'une blancheur aveuglante. C'est un narcisse à la beauté hors du commun. Le ciel, la terre et même la mer semblent chanter sa beauté. Le vent danse autour de son parfum, embaumant la prairie et enveloppant la jeune femme d'une irrésistible envie. La voilà qui s'écarte du groupe pour cueillir l'élégante fleur. C'est à ce moment qu'Hadès la voit, et il en tombe fou amoureux. Vite, il appelle son frère Zeus, qui commande sur toutes les choses, et lui demande la permission d'épouser la belle Perséphone. Ce dernier ne dit rien, et le dieu des enfers interprète ce silence comme un consentement. Alors, d'un geste divin, au moment même où la jeune femme allait saisir le narcisse, il ouvre la terre sous ses pieds et l'enlève, pleurante, sur son char noir. De toutes les nymphes qui jouaient avec Perséphone, seule la nymphe Cyanée assiste au rapt. Elle a le courage de barrer la route au dieu insatiable. Mais celui-ci, d'un simple regard, laisse la terre engloutir la pauvre nymphe, puis s'enfonce dans les enfers avec celle qu'il vient d'enlever. Cyanée est si inconsolable d'avoir perdu son amie qu'elle fond littéralement en larmes et devient la source d'un profond fleuve. Les cris des nymphes affolées alertent Déméter. La malheureuse mère arrive trop tard sur les lieux du rapt et ne trouve rien qui puisse lui indiquer où se trouve sa fille unique. Elle part donc à sa recherche pendant 9 jours et 9 nuits. Voilà la déesse qui marche sans répit, interrogeant ceux qu'elle croise, cherchant jusque dans les endroits les plus obscurs, espérant retrouver la trace de Perséphone. Un beau jour, assoiffée par cette quête sans espoir, la déesse est amicalement accueillie par Miss May, une vieille femme. Celle-ci lui donne à boire une coupe de vin. Déméter la boit d'un seul trait. Le fils de la vieille femme se moque alors de sa manière goulue de boire. C'en est trop pour Déméter. Agacée et fatiguée, elle lui jette à la figure le reste du breuvage et s'en va. Le pitoyable moqueur se transforme alors en lézard, mais conserve sur sa peau les traces des gouttes. Il devient un gecko. Lorsque Déméter a parcouru toute la terre à la recherche de sa fille, elle revient en Sicile, à la source de Cyané la nymphe. Celle-ci voudrait lui raconter ce qui est arrivé à Perséphone, mais le murmure de son eau ne lui permet pas de transmettre son message. En voyant la pauvre déesse rajouter ses larmes à son eau, elle redouble d'efforts et laisse affleurer à la surface la ceinture que la jeune fille a perdue lorsqu'elle fut kidnappée par Hadès. Quand la mère voit l'objet, elle comprend tout ce qui est arrivé. La ceinture est chez les Grecs le symbole de la virginité. Voilà donc la mère qui rugit de douleur et de désespoir. Elle maudit les environs et le monde entier, prive la terre de la fertilité, gâte les semences, tue ensemble les bêtes et les bergers. À la vue de cette volonté destructrice, la nymphe Arétuse, qui par ses nombreuses relations dans les enfers connaissait le séjour de Perséphone, va vite voir Déméter. Elle la supplie d'épargner la terre innocente et lui apprend que sa fille est désormais reine des enfers. Elle lui raconte tout, ne lui cachant rien de la complicité d'Aphrodite et de l'accord silencieux de Zeus. Déméter, indignée, ne peut s'apaiser. Elle court vers l'Olympe demander justice. Elle ordonne qu'on lui ouvre la porte des enfers pour qu'elle y aille chercher sa fille. Mais tous fuient sa colère et personne ne se présente à elle. Dépitée, ne voulant plus rien avoir à faire avec les dieux, elle quitte furieusement la divine montagne et prend l'apparence d'une vieille femme. Elle erre ainsi parmi les hommes qui ne la reconnaissent pas. Un soir, elle arrive près d'une fontaine dans la ville d'Éleusis. Fatiguée, elle se couche sous un olivier pour prendre un peu de repos. Au bout de quelques heures, Callidice, Clésidis, Démo et Callidoé, les filles de Céléos, roi d'Éleusis, arrivent à la fontaine et voient la vieille femme endormie. Doucement, elle lui demande d'où elle vient et pourquoi elle se trouve seule dans une ville étrangère. La déesse répond que son nom est Dozo, qu'elle vient de Crète et qu'elle a été enlevée par des pirates auxquels elle a réussi à échapper. Les quatre filles de Céléos s'effraient d'une si mauvaise aventure et invitent Déméter dans la maison de leur père, où elle est accueillie chaleureusement. Mais malgré tous les bons soins dont on l'entoure, la déesse reste silencieuse et pleine de tristesse, ne voulant rien manger ni rien boire. Les hôtes, pleins de compassion, la laissent doucement apprécier son séjour parmi eux et ne cherchent pas à la brusquer. Et les jours passent. Lors d'un déjeuner, une servante à la langue bien pendue réussit à la faire rire par des plaisanteries obscènes. Et peu à peu, voilà qu'elle reprend des forces et son sourire parfois revient illuminer son doux visage. Elle accepte même la charge de nourrice de Démophon, le plus jeune fils de Céléos et de Métaner. Elle va jusqu'à le nourrir d'ambroisie, le nectar réservé aux dieux. La boisson le fait grandir très rapidement et s'approcher par son apparence des dieux autant que des hommes. Voyant Démophon devenir de plus en plus beau, Déméter décide de le rendre immortel. Peut-être vous direz-vous qu'elle essaye de combler le vide créé par l'absence de Perséphone. Ah, peut-être. Mais qui peut entrer dans les pensées et la volonté des dieux? Toujours est-il qu'elle s'apprête à accomplir le rituel en passant l'enfant dans les flammes d'un grand feu. Et c'est à ce moment qu'entre Métaner. Elle pousse un grand cri, croyant que, devenue folle, la vieille femme tente de brûler son fils. Les gardes et toute la famille se précipitent dans la pièce et assistent impuissants au terrible tableau. Cela irrite beaucoup la déesse. Elle tire le garçon du feu grâce auquel il aurait pu échapper à la mort et se montre sous sa vraie apparence. Les faibles humains plissent alors les yeux, ne pouvant supporter la lumière qui émane d'elle. Tous s'agenouillent et se confondent en excuses. D'une voix ferme, elle exige qu'on lui érige un temple à Éleusis, dont le premier grand prêtre sera Séléos, le père de l'enfant. Puis elle s'apprête à quitter la ville. On raconte qu'avant de quitter la ville, elle lui souffla quelques mots à l'oreille. Ces quelques mots devinrent un éternel mystère, et de là naîtra de bien grandes choses. Mais ces secrets sont si bien enfouis que la terre elle-même n'en sait que la moitié. Pendant tout ce temps, Déméter n'a pas adouci sa colère. Aucune plante ne pousse, aucun arbre ne donne de fruits. Tous les pays sont rongés par la faim, si bien que les hommes finissent par s'entre-dévorer et mourir dans leur lit. Il en faut peu pour que bientôt les dieux restent seuls sur l'Olympe, sans les fumées des sacrifices dont ils se délectent tant. C'est pourquoi Zeus envoie Hermès à Hadès, lui demandant au nom de tous les dieux de libérer Perséphone. Hadès se plie à contre-cœur à la volonté du puissant monarque. Bien qu'il l'ait enlevé de force, il s'est montré ensuite prévenant, attentionné, doux, pour tout dire, amoureux. Et le charme dont il a fait preuve semble avoir fonctionné quand on voit avec quels yeux la douce Perséphone le regarde. Il propose à la jeune femme, avant qu'elle ne suive Hermès, d'avaler un pépin de grenade, fruit dont elle raffole. La jeune femme s'exécute et lance un doux baiser d'adieu au dieu froid. Quand elle est de retour auprès de sa mère, les deux femmes explosent de joie. Embrassades et larmes rythment leurs retrouvailles, jusqu'à ce que la déesse lui demande si elle a mangé quoi que ce soit dans les enfers. Innocemment, Perséphone raconte que la tristesse lui a coupé la faim, mais qu'avant de partir, elle a goûté un pépin de grenade donné par Hadès. Déméter devient livide. Une personne qui a goûté au mets des morts ne peut rester dans le monde des vivants. Ainsi, Perséphone doit retourner aux enfers. La sécheresse augmente encore un peu plus sur Terre. Impossible pour la déesse de lâcher sa fille. Zeus intervient à nouveau et fait une proposition. Perséphone vivra 4 mois avec Hadès aux enfers et passera les 8 autres mois auprès de sa mère sur Terre. Déméter regarde sa fille et s'adoucit. Elle voit dans les yeux de Perséphone qu'un étrange amour la lie au roi des morts. Elle s'accommode de ce compromis et accepte de donner à nouveau la fertilité à la terre. Elle se rend alors dans la plaine de Raros, à Éleusis, où elle sème la première pousse de céréales, comme un cadeau pour les hommes. Les 4 mois de Perséphone dans le monde souterrain représente la période stérile de la terre. Déméter est triste, donc aucune plante ne pousse. Mais quand sa fille est avec elle, tout refleurit et prospère. Voilà venir le printemps. Merci d'avoir suivi cette histoire. La semaine prochaine, nous nous retrouverons en France où nous attendent de bien jolis contes. En attendant, je vous souhaite de profiter des bienfaits de la terre.